Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment lutter efficacement contre les violences subies par les enfants? C'est notre thème ce matin. En 1989, une convention a ratifié leurs droits en matière de soins, d'éducation, de protection sociale, de justice, de démocratie. Et selon la défenseure des enfants, ne pas reconnaître les droits des enfants constitue une violence. Mais comment améliorer cette reconnaissance et plus largement, comment lutter contre toutes les violences dont ils sont victimes? Violences physiques, psychiques, psychologiques, sexuelles. Question posée ce matin à nos invités Thierry Beccaro, ambassadeur de l'UNICEF, Geneviève Avenard, défenseur des enfants, et Jean-Pierre Rosenzweig, ancien magistrat, enfant, parent, enseignant, éducateur, juriste. N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives, de vos idées pour lutter contre les violences, contre les mineurs, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bonjour Thibault de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Au menu de votre ordonnance philosophique, tout à l'heure vers 11h25.
Eh bien, une petite exploration au-delà du droit pour se demander comment est-ce qu'on peut continuer de protéger les enfants, mais au-delà des lois.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Thierry Beccaro.
Bonjour Ali.
Vous êtes comédien, animateur de télévision, bien connu des Français, et vous avez été nommé ambassadeur de l'UNICEF, un titre prestigieux pour faire avancer la cause des enfants, mais il ne s'agit pas que d'un titre prestigieux, nous le verrons ce matin.
C'est d'abord un grand honneur et c'est la continuité d'une aventure incroyable parce que avant d'être nommé ambassadeur de l'UNICEF, je suivais cet organisme, cette organisation qu'on peut retrouver dans 190 pays du monde. Et j'étais très très intéressé par le sort des enfants, que ce soit les violences éducatives ordinaires dont on parle aujourd'hui ou alors la maltraitance dont ils sont victimes dans tous les domaines, dans tous les pays. Je savais pas trop comment les contacter. Et c'est à la faveur d'une émission où je suis allé vendre un petit objet pour une association, justement. Et figurez-vous que le jour où on me demande pour qui veux-tu vendre cet objet, j'étais un peu pressé et tout. Je sortais du métro, car on pouvait prendre le métro ce jour-là. Et tout à coup, le producteur me dit « Et pourquoi pas l'UNICEF ?» Je trouve qu'il y a des choses comme ça dans la vie. Mais je dis « Mais j'essaie de les contacter depuis très très longtemps. J'ai vendu mon objet, pas très cher, mais je l'ai vendu quand même. Et j'ai pu passer ce message un quart d'heure après. J'avais un coup de fil. Et voilà comment l'aventure a commencé. »
Et vous publiez un témoignage très fort, témoignage sur votre enfance martyr. « Je suis né à 17 ans », publié chez Plon. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour Geneviève Avenard.
Bonjour.
Vous êtes défenseur des enfants et adjointe du défenseur des droits depuis 2014. Quelle est la fonction et les attributions exactes de la défenseur des enfants? L'une de vos charges, l'une de vos fonctions, c'est de veiller au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Tout à fait. Ma mission est de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de l'enfant tels qu'ils sont consacrés en particulier par la Convention internationale des droits de l'enfant dont vous avez rappelé qu'elle avait été adoptée en 1989. Donc on a célébré l'année dernière, en novembre 2019, ses 30 ans. Et mon rôle est effectivement de défendre, c'est-à-dire de défendre les droits des enfants au travers des réclamations qui nous sont adressées. On reçoit environ 3000 réclamations par an qui concernent des atteintes aux droits des enfants, des atteintes qui peuvent concerner la protection des enfants, donc leur besoin de sécurité, mais aussi les enfants à caractéristiques ou à spécificités particulières, comme les enfants étrangers, comme les enfants qui se trouvent déplacés, comme les enfants en situation de handicap. Et mon rôle est également de travailler à la promotion des droits des enfants pour les faire connaître parce que les droits des enfants, 30 ans après, restent largement méconnus dans notre pays.
Bonjour Jean-Pierre Rosenzweig.
Bonjour.
Ancien magistrat, vous avez longtemps présidé le tribunal pour enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis et vous avez récemment publié au Seuil « Rendre justice aux enfants et les droits de l'enfant pour les nuls » publié chez First. Quelle est votre fonction? Quelle était votre fonction pendant une trentaine, une quarantaine d'années?
Alors, fondamentalement, le rôle du juge pour enfants, c'est de protéger la personne de l'enfant, qu'il soit victime de maltraitance ou qu'il soit victime d'un manque d'éducation qui l'amène lui-même à commettre des délits, à agresser les autres. Quand on regarde fondamentalement les choses, c'est garantir le droit à l'éducation des enfants en danger ou des enfants délinquants. Et effectivement, ça amène à réfléchir sur l'état des droits des enfants en France, où on peut mieux faire.
Geneviève Avenard, pour vous, ne pas écouter les enfants, ne pas reconnaître leurs droits, c'est pratiquer une certaine forme de violence. C'est très fort de proclamer ceci.
Oui, je crois que c'est méconnaître que l'enfant est un sujet de droit. un sujet à part entière, autant que les adultes. Et qui donc, il a le droit et de pouvoir s'exprimer en particulier sur ce qui, d'être consulté, d'être associé aux décisions qui sont prises le concernant et de pouvoir être, évoluer dans un climat de bienveillance qui va lui permettre de pouvoir parler. Mais surtout, vraiment, cette notion, enfin, je crois que ce qui a vraiment été introduit par la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est cette notion de sujet et cette notion d'acteur. Un sujet qui est complet, c'est un être humain complet, mais en même temps inachevé, bien sûr, puisque l'enfant, il va progresser, il va grandir, il va se développer au fur et à mesure qu'il avance en âge. Et ce que dit la Convention, et ce qu'il faut vraiment mettre en œuvre, c'est de faire en sorte qu'on réponde, qu'on apporte une protection et des soins spéciaux aux enfants, parce qu'ils sont plus vulnérables que les adultes.
Non, mais pour prolonger ce que dit Geneviève Avenard, l'enfant sujet, mais ça veut dire que l'enfant est une personne. Et que, comme toute personne, elle doit être respectée dans son corps, dans son intimité. C'est le débat sur les droits des femmes. Les femmes sont des personnes. Les personnes handicapées sont des personnes. Les personnes qui sont homosexuelles ou hétérosexuelles sont des personnes. Donc, les droits de la personne, ça consiste à être respecté. Mais les droits de la personne, ça consiste effectivement à être reconnu comme étant quelqu'un qui pense, qui a des sentiments, qui a des affects, et qui donc doit pouvoir les exprimer par la parole lorsqu'il a des choses à dire. Le biberon est trop chaud ou il est maltraité. Pas le biberon, mais l'enfant. Ou il a des convictions religieuses. C'est le débat d'actualité sur les convictions religieuses. Sur l'expression individuelle et collective, le droit d'association, le droit d'expression.
Et vous réclamez...
En une phrase, ce qui est important, c'est qu'avec la Convention internationale, on est passé du 19e au 21e siècle. On était jusqu'à présent dans la conception, l'enfant est un être fragile qu'il faut protéger contre lui-même ou contre autrui. Maintenant, on est sur l'idée, l'enfant est une personne. Et ça change la donne, comme dit Geneviève, l'enfant va pouvoir être acteur de sa protection.
Et vous réclamez un ministère de l'enfance et non un ministère de la protection de l'enfance.
Oui, mais... En une phrase, dire ça, ce que nous voulions dire, parce que j'étais pas le seul à le dire, Geneviève le disait, d'autres le disaient, ce que nous voulions dire, c'est qu'il fallait que l'enfant et l'enfance soient un objet de politique publique. Regardez, en 81, lorsqu'on crée le ministère du temps libre, on vient identifier que les deux tiers du temps de la vie ne seront pas au travail. Écrire un gouvernement, comme disait François Mitterrand, c'est identifier des problèmes politiques à gérer. Et ce que nous disions, ce que nous souhaitions, c'est que l'enfance soit au cœur du dispositif de réflexion sur la justice, la solidarité, la vie sociale.
Thierry Beccaro.
Là, moi, je témoigne dans le livre dont vous avez parlé. Je suis né à 17 ans. Alors, je précise, j'ai pas été un enfant martyré. J'ai été à un grand moment de ma vie maltraité. Et ça, c'est important. Mais on s'est parlé pour la convention, pour l'anniversaire. On s'est par téléphone. Je suis intervenu dans l'émission, j'ai relu comme ça quelques articles. Et si vous lisez bien les articles, qu'est-ce que ça dit? Ça commence toujours comme ça. Étant entendu que, considérant que, vu que, mais quand on voit ce qui se passe 30 ans après, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et moi, si je parle de mon cas, je veux bien que l'enfant soit une personne, mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces petits bouts de choux, ces petites bonnes femmes? Être une personne, certes, mais pouvoir s'exprimer, c'en est une autre. Parce que un petit bonhomme, ça n'a pas la force et les capacités forcément psychologiques pour s'exprimer, Geneviève.
Oui, c'est vrai, mais justement, c'est tout l'enjeu, effectivement, de la politique qui doit être menée en faveur de la protection pour protéger nos enfants contre toutes les formes de violence, parce que la Convention, elle cible toutes les formes de violence, qu'il s'agisse des violences dans la famille, mais aussi dans les institutions. Et d'ailleurs, nous avons consacré notre rapport 2019 à la question des violences dans les institutions, justement, pour montrer que même dans les institutions qui accompagnent les enfants, nous constatons des phénomènes de violence, des adultes sur les enfants, des phénomènes de violence aussi entre enfants, c'est la question qui est quand même ce phénomène qui est très grave et dramatique, et celui du harcèlement scolaire, et voire du cyberharcèlement, et puis que les institutions aussi, par leur fonctionnement, par le fait qu'ils ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant comme une priorité, qu'ils ne l'écoutent pas, qu'ils négligent en quelque sorte cet enfant, et bien que les institutions provoquent aussi de la violence. C'est ça qu'on veut dire.
Jean-Pierre Rosenveig.
Je vais répondre à la remarque de Thierry, qui est intéressante parce qu'elle dépasse largement le droit de l'enfance. C'est ce que vous dénoncez, c'est le fossé qu'il y a entre les droits formels et les droits réels. Les travailleurs en savent quelque chose. Qui, quand ils revendiquaient leurs droits, se faisaient envoyer l'armée, plus la police, plus les tribunaux. Et se sont battus pour obtenir que les lois avancent, et après il a fallu qu'ils se battent pour que les lois s'appliquent. Concrètement, par rapport à la situation dont vous parliez, et ceux qui nous écoutent et qui pourraient être aujourd'hui victimes, combien d'enfants, et dans les débats que j'ai avec les gosses dans les établissements scolaires, je leur pose la question, est-ce que vous savez que vous avez le droit d'aller dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour dire que vous avez été maltraité. Et les gamins me disent, mon papa, il est sans nos parents. Mais je dis, écoutez, vous... non, c'est un droit qui vous est personnel. Combien d'adultes savent que ce droit existe? Et à la limite, mais combien de policiers aux gens? En d'autres termes, et pour prendre un autre exemple, la Convention internationale, Geneviève me le confirmera, c'est grâce à la Convention internationale, son article 12, qui dit qu'en toute situation, le point de vue de l'enfant doit être recueilli, que nous avons obtenu en 2007, en 2007, dans la patrie autoproclamée des droits de l'homme ou des droits humains, nous avons obtenu que l'enfant qui demande à être entendu en justice par son juge quand les parents divorcent va pouvoir l'être. Donc on a gagné la victoire du droit et maintenant il faut gagner la victoire de l'application du droit. C'est les deux.
Vous le martelez, Geneviève Avenard, les droits des enfants, ce ne sont pas des concepts théoriques, éthérés, déconnectés du réel. Ce n'est pas un sujet secondaire, facultatif.
Non.
Et il existe trop souvent, et Jean-Pierre Rosenzweig vient de le dire, un décalage entre les droits proclamés et les droits réels.
Oui, c'est tout à fait. C'est toute la mission, je dirais, de notre institution, du défenseur des droits, que de veiller à rétablir une sorte d'équilibre ou de gommer cet équilibre, cette différence, ce décalage entre les droits proclamés, parce qu'on a beaucoup de droits, hein, on a un arsenal juridique extrêmement sophistiqué dans notre pays pour
et
protéger les enfants.
Et encore perfectible.
Encore perfectible, mais il existe quand même, et depuis plusieurs années, puisque quand même, 1989, c'était aussi la première loi sur les maltraitances à enfants.
Hein, oui, au passage, il faut saluer quand même le travail de Pierre Strauss et de la FIREM en 81.
La FIREM,
l'Association française d'information sur l'enfance maltraitée. C'est Pierre Strauss qui a réveillé la France, car jusqu'en 81, on estimait qu'il n'y avait pas de problème d'enfance maltraitée en France. Hein. 80, c'est hier.
Et donc, pour terminer, des droits formels, des droits proclamés, et dans la réalité, ce qu'on voit dans les réclamations, ce que nous voyons au travers des réclamations que nous recevons, ce sont des droits qui sont bafoués. Des enfants qui ne sont pas protégés. Vous avez évoqué tout à l'heure la maladroite. C'est l'histoire de cette petite Marina à laquelle le défenseur des droits, la défenseure des enfants ont consacré un rapport en 2014 qui a fait le point sur l'ensemble des événements des loupés, des ratages, des dysfonctionnements qui ont conduit finalement à ce drame, à la mort de cette petite fille à l'âge de 8 ans. Et de la même façon,
rappelez-nous cette histoire en quelques mots.
C'était une petite fille qui est morte sous les coups de ces actes de torture et de barbarie, hein, c'est ainsi qu'on a décidé on a déterminé la justice de ses parents, après que une multitude de signalements aient été faits. Des signalements qui ont été faits par l'école, des signalements, des interpellations, des interrogations, etc. Des parents qui avaient un discours tout à fait adapté, qui déménageaient régulièrement de département, et finalement cette petite fille, on n'a pas pu la protéger. Cette année, l'année dernière également, nous avons travaillé sur une situation. Là, heureusement, la jeune fille est vivante puisque c'est elle qui nous a saisis, mais qui, pareil, de la même façon, une petite fille qui, de sa naissance à ses 6 ans, a été au domicile de ses parents, a été victime de viol de la part d'un ami des parents, et en dépit de tous les signalements qui ont pu être faits, elle n'a pas été protégée. Donc, c'est vrai qu'il y a ça n'est pas supportable.
Ce qui est important à préciser aussi, bien sûr que les enfants, on peut leur donner la parole, mais il y a une chose qu'on oublie régulièrement, et je ne cesse de le répéter, c'est que un enfant, ça aime ses parents.
Oui.
Ça va pas dénoncer ses parents.
Oui,
je pense que Jean-Pierre, on sera d'accord. C'est là la grande difficulté.
C'est pour ça que dans
le travail que j'essaie de faire avec l'UNICEF et que je ferai le plus possible, c'est de, comme vous l'avez fait dans ce livre, j'ai des droits, entends-moi, Geneviève, c'est de donner la parole aux enfants, mais en leur disant, vas-y, sous forme d'improvisation, parle-moi, raconte-moi, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, là où j'irai, raconte-moi, parle-moi, parce que à travers les paroles, tout à coup, il y a les messages qui vont passer. Mais Jean-Pierre, moi je me voyais mal aller au commissariat.
On va pas généraliser toutes les situations. Ça dépend à quel âge. Pour répondre à la question qui était posée, comment combattre la maltraitance à enfants, je crois que la première des choses, c'est de rappeler les règles du jeu. Et c'est le débat autour de la Fameuse 9. Hein. Il faut rappeler aux adultes qui n'ont pas à avoir de relations sexuelles, peu importe que l'enfant soit présenté comme séducteur, ayant des envies, on n'a pas à avoir des relations sexuelles lorsqu'on est majeur avec un enfant de moins de 15 ans. Point barre. On vient de voter une loi en juillet 2019, et on y est pour quelque chose, le défenseur des droits et quelques autres, pour venir dire qu'il fallait condamner les châtiments corporels, ce qu'on appelle pudiquement aujourd'hui des violences éducative ordinaire. Mais on n'a pas fait la pédagogie de la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué aux Français comment on pouvait élever son gosse sans le frapper et sans élever la voix. Donc il y a un problème de pédagogie à avoir. Il faut informer les parents sur leurs responsabilités, il faut informer les enfants sur leurs droits, mais, et c'est le point politique important, dans le même temps, et là encore le défenseur des droits est sur ces bases-là, il faut mettre en place plus que jamais des dispositifs de recueil d'informations sur les situations préoccupantes, car l'expérience nous montre depuis 30 ans, depuis les circulaires en France maltraitée de 83, auxquels j'ai pu participer, nous savons tous que quelqu'un est toujours au courant du fait qu'un enfant est maltraité. Mais celui-là ne sait pas décrypter l'information et ne sait pas à qui la donner. D'où la mise en place, dans la loi de 2007, des cellules de recueil des informations préoccupantes. Mais le problème, il est très politique, c'est que tous les dispositifs de proximité des familles à l'heure actuelle sont en train de voler en éclats. Le service social scolaire, le service de santé scolaire, la protection maternelle et infantile, les clubs et équipes de prévention, récemment la pédiatrie ou la psychiatrie infantile, tous ces dispositifs qui pourraient venir aider des enfants comme vous l'étiez, ou des parents qui sont en difficulté, tous ces dispositifs sont en train de voler en éclats. On va avoir de sacrés problèmes dans 5 ou 10 ans.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan, Julien Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter. Brian Ferry interprétait Slave to Move.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qui le font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste et ne le sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut. On doit le faire. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation.
Jean-François Stévenin, dans l'argent de poche de Truffaut, ça n'a pas pris une ride. 10h27, comment lutter efficacement contre les violences subies par les enfants? C'est notre thème ce matin avec Thierry Beccaro, ambassadeur de l'UNICEF. Geneviève Avenard, défenseur des enfants, et l'ancien magistrat Jean-Pierre Rosenzweig. J'aimerais vous lire ce courriel que je viens de recevoir. C'est Clément. J'ai grandi aux Antilles, à Saint-Martin, dans des conditions très difficiles. Défaut de scolarisation avant l'âge de 10 ans, violences psychologiques et physiques, maladies non soignées. Bourse d'école jamais affectée à ma scolarité, et j'en passe. L'école n'a jamais tenté de savoir pourquoi j'étais arrivé à 10 ans à l'école, pourquoi je ne faisais pas mes devoirs, pourquoi je n'avais pas mon matériel, les marques sur mon corps, le refus de faire du sport. Je pense que la détection scolaire est primordiale et j'ai vécu cruellement cette carence. Geneviève Avenard.
Oui, c'est vrai que l'école est par définition le lieu où tous les enfants vont passer à un moment, enfin une longue partie de leur vie, de leur enfance, et il y a beaucoup de progrès à faire et à réaliser encore, c'est clair, sur la formation des enseignants, la formation des équipes aussi, parce qu'il n'y a pas que les enseignants, hein, et puis en termes aussi de présence de services. Jean-Pierre parlait tout à l'heure du service social, du service de santé scolaire, de la PMI. Si les services ne sont pas présents, et là on voit bien qu'on assiste depuis plusieurs années à une diminution de l'offre de services, eh bien ces services ne peuvent pas protéger les enfants. Outre le fait que les professionnels doivent être formés, et ça, ce qu'on note dans tous nos rapports, dans toutes nos décisions, c'est le fait que les professionnels qui sont en contact avec les enfants, eh bien, il faut savoir qu'ils ne sont pas formés au développement de l'enfant, ni à l'écoute des enfants. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, la priorité numéro un.
Jean-Pierre Rosenzweig.
Et qui, malheureusement, n'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Non.
La dénonciation du fait que le service social... Les services de santé scolaire sont sinistrés, c'est 1976, le rapport Beaurepaire du Conseil économique et social. Et dans tout ce que nous avons énoncé tout à l'heure, service social scolaire, service de santé scolaire, PMI, psychiatrie infantile, c'est des responsabilités conjointes de l'État et du département. Et en vous écoutant, moi, il me revenait une réflexion qu'on avait il y a 30 ou 40 ans lorsqu'on travaillait sur la Convention internationale et qui consistait à dire, au regard de ce qui se jouait au plan mondial, quand il y a une crise économique, c'est toujours le service éducatif et le service social qui est en crise. Bah, regardez ce qui se passe en France à l'heure actuelle. On ne met pas à la hauteur des besoins les moyens des services sociaux. Soit l'État, soit le département, voire même ils sont en train de démissionner pour certains d'entre eux.
Thierry Beccaro.
Moi, j'ai beaucoup discuté à la suite de la publication du livre. Je vais dans pas mal d'endroits, dans les salons du livre, et je reçois et je recueille la parole. Maintenant que j'ai libéré la mienne, je me suis aperçu que on parlait de la solitude et de l'enfermement des enfants. Et souvent, on croit qu'on est tout seul. On croit qu'on est le seul à connaître ces malheurs. Et puis tout à coup, il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous disent « J'ai un peu... Merci, j'ai un peu vécu ce que vous avez vécu. » C'est pas forcément le même malheur, mais c'est la même douleur. Et des instits, des enseignants, j'en ai vu qui sont venus à moi me dire « Mais comment je peux faire ?» Que c'est difficile. Oui. Vous voyez, comment je peux convoquer, moi, une mère de famille, un père de famille, et lui dire, dites-moi, votre enfant, j'ai l'impression que ceci, que cela. Nous, on sait pas comment faire.
Et c'est pas leur boulot, hein, en plus. C'est leur boulot de repérer, mais c'est pas leur boulot de traiter.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, non, juste une petite anecdote, enfin en tout cas un cas particulier, mais en fin d'année scolaire l'année dernière, moi j'enseigne en terminale, donc avec des élèves de 16, 17, 18 ans. Et j'avais repéré donc une élève qui était clairement en souffrance, hein, qui avait des comportements notamment d'arriver saoul en classe et de boire même entre deux cours. Bref, on en discute, j'essaie d'alerter la direction, l'infirmière scolaire, etc. Et juste voilà, pour donner la complexité de la situation, on m'a répondu que cette élève allait avoir 18 ans dans deux mois. Et que donc le temps de mettre en place un suivi, en fait, ça échapperait, en fait, et qu'il faudrait entrer dans un autre système, etc., etc. Et c'est vrai que on est un peu troublé par ça, parce qu'on dit, il y a clairement une souffrance, il y a clairement une urgence. Et alors, quand j'ai dit que c'était une affaire d'urgence, on m'a dit, alors, si vraiment vous pensez qu'elle est en danger, on appelle le SAMU. Voilà. Et qu'il y ait une forme de défausse un peu sur le côté, on va refiler à l'institution d'à côté le problème. Mais cette question des effets de seuil, c'est-à-dire que voilà, cet enfant n'est bientôt plus tout à fait aux yeux de la loi un enfant, et pourtant le problème qu'il porte est né dans l'enfance. Et donc voilà, comment est-ce qu'on gère cette complexité?
Pour parler d'une manière un peu polémique, je dirais qu'il y a une assistance à personne en péril de la part des gens qui n'ont pas voulu entendre le constat que vous aviez fait. Mais deuxièmement, il y a surtout, et je rejoins ce que dit Geneviève, il y a une culture de la part des gens qui ont recueilli cette information, parce que ils se devaient de savoir qu'ils peuvent saisir la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, c'est-à-dire par un coup de téléphone, un mail, en 5 minutes, le problème est géré, qui elle-même va analyser la situation, et ces gens-là dont vous parlez, ou d'autres, comme vous, si vous saviez qu'existe le service social de proximité, en d'autres termes, vous n'êtes pas prisonnier du service social défaillant. Eux sont incompétents, apparemment, dans cette histoire, et se sont lavés les mains par rapport à une situation d'une gamine qui avait 17 ans et demi, alors qu'ils devaient s'en préoccuper. Elle est mineure, et même serait-elle à 18 ans et quelques, elle mérite protection. Et deuxièmement, personne n'a pensé à mobiliser soit la CRIP, soit le service social de proximité. Et c'est ça le problème auquel sont confrontés beaucoup d'enfants. Ils sont isolés dans leur cri parole ou leur cri physique.
Mais la question, c'est aussi celle de la banalisation de ce qui leur arrive. Une banalisation, enfin, voilà. Du coup, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont exprimer, ce qu'ils vont montrer par leur comportement ou leur, ne va pas être pris en compte, va être négligé. Et c'est la question du temps. Parce que pour un enfant, qui est tout à fait l'anecdote qui a été citée là, pour un enfant, la question du temps est très importante. On peut pas attendre quand il y a une urgence, enfin quand il y a une situation de cette nature, il faut agir tout de suite.
Tout le monde peut appeler la CRIP, Jean-Pierre Rosenzweig.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et comment on fait pour appeler
le téléphone vert, ça c'est la loi de 89 qui a repris les circulaires de 83, mais le téléphone vert, le 119, doit être affiché dans tous les lieux publics, et pas seulement dans les écoles, dans tous les lieux publics.
C'est
effectivement, il reçoit beaucoup d'appels, parfois des appels qui sont apparemment des blagues, en réalité c'est des gamins qui testent, mais il y a derrière tout un dispositif pour traiter ces situations et les renvoyer sur le terrain.
Thierry Beccaro, il faut le marteler, ce numéro, le 119, 119 pour les plus jeunes qui nous écoutent, est essentiel pour sauver des vies.
Bien sûr, j'ai eu je sais pas si c'est la chance de témoigner sur le site Brut pour l'UNICEF, pour parler de ce que j'avais vécu. Je ne savais pas que ça allait déclencher tant d'appels au 119. C'est-à-dire que les gens ne savent pas tous, et les enfants ne savent pas qu'ils peuvent appeler. Alors évidemment, il y a des blagues. Et ce témoignage que je vous invite à regarder, non pas pour me regarder moi, mais pour écouter ce que j'évoque, ça a été une déflagration, parce que ça a été comme un éveil pour celles et ceux qui sont concernés ou pas. Voilà, ça existe aujourd'hui.
On peut rajouter même que quand un gosse appelle, l'appel au 119 n'est pas sur la facture téléphonique des parents. La disposition a été prise pour que, j'allais dire, le gamin soit pas repéré par ceux qui le maltraitent.
Mais j'aimerais qu'on raconte ce que vous avez subi tout de même, Thierry Beccaro. Vous le racontez donc dans Je suis né à 17 ans. Vous avez reçu des déluges de gifles, de coups, d'humiliations, entre l'âge de 4 et 17 ans. Le droit au respect de votre intégrité physique et psychique a été bafoué, piétiné. Votre père vous a fait subir son alcoolisme triste et agressif, c'est ce que vous écrivez.
Oui.
Vous écrivez que votre père n'était pas violent, mais que la violence l'habitait trop souvent. Et tous les prétextes étaient bons pour vous agonir de coups. Avec une scène traumatisante à l'âge de 17 ans.
Oui, c'était... ça a été difficile pour moi d'évoquer cette histoire. Et j'ai rencontré il y a quelques années Jean-Pierre Rosenzweig sur le plateau d'une émission que je présentais. Et je connaissais bien ce dont je parlais, mais sans l'avoir jamais évoqué.
Ça rien dit en plus.
Non, j'étais resté très très discret. Et la vie veut que j'ai présenté pendant 29 ans une émission qui s'appelait Motus. Et quand tout à coup j'ai réalisé ça, c'était quand même assez incroyable. Et j'avais un père, je vais quand même le dire, parce que c'était un mec formidable. Sauf que il était habité par des démons, qui étaient la jalousie, qui étaient la... Son histoire personnelle, c'est une chose importante à prendre en compte, l'histoire des parents.
La frustration.
L'histoire d'un Rital qui avait fui avec ses parents, le fascisme. C'est quelqu'un qui voulait réussir, quelqu'un qui était peut-être un peu complexé. Et les jours où ça allait moins bien, pour n'importe quel prétexte, le soir, j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête et je ne savais pas quand ça allait tomber, quoi. Et la phrase que j'évoque dans le livre, je disais toujours, et je me dis pourvu que les enfants nous écoutent, aujourd'hui on est mercredi, je disais, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que rien faire de mal? C'est ça qui était terrible. C'est que on comprend pas. J'avais pas la structure, les enfants n'ont pas la structure psychologique pour comprendre ce qui leur arrive. Moi, ce qui me rassurait, c'est qu'après, ils montaient me voir dans la chambre et puis ils me disaient qu'ils m'aimaient. Alors je disais, s'ils m'aiment, c'est que j'ai rien fait de mal, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre après, c'est ce que ça va entraîner. Voilà, un enfant qui a été maltraité, ça fera un adulte qui aura du mal à avancer dans la vie. Ça fera un adulte brisé, ça fera un adulte qui a peur de tout, qui a peur de ceci, qui a peur de cela, qui a peur, comme je le dis, qui met 20 ans avant d'accepter d'aller faire Fort Boyard parce que j'ai peur de ça, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'avoir peur. Il faut bien prendre prendre conscience de ce qu'est la maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est bien élégant, hein, les violences éducatives ordinaires.
Mais à 17 ans, votre père
et à 17 ans,
un fusil sur votre mère.
Un soir, comme il m'a dit un jour, un jour qui est pas fait comme un autre. Cette phrase était. J'entends du bruit dans la maison. Il est 21h et j'allais me coucher. J'allais passer le bac deux jours après. Et puis j'ouvre la porte du couloir et je vois mon père qui brandit un fusil, enfin qui tient ma mère en joue, quoi, avec son fusil. Ma vie s'est arrêtée là. Quand je dis, ce soir-là, je suis mort. J'avais 17 ans. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, papa? Donc là, il a baissé, évidemment. Et à partir de là, c'était. Les mots n'existent plus. Les mots, ce que je raconte, peut-être que d'autres l'ont déjà vécu ou le vivent malheureusement. Je l'ai raconté pour expliquer que voilà, parce que c'est ça le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Je suis mort et je suis rené.
Et vous avez également subi la violence du silence des adultes qui se doutaient. Vous écrivez, le silence des gens bien est tellement cruel à admettre. Vous vous demandez pourquoi ce silence de tous ceux qui vous entouraient, pourquoi personne n'est jamais venu frapper à la porte pour demander si tout allait bien.
Ah oui, parce que là, on est dans les années 60. Ça, je peux vous dire que, alors, non pas que je sois un vieillard, mais, à cette époque-là, vous savez, on parlait de fessées, de raclées, ça n'a jamais fait de mal à personne. On sort, faut pas oublier, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, les parents, ils en ont vu d'autres, hein. Et puis, tu seras un homme, mon fils.
Tu vas t'endurcir.
Et moi, j'ai eu cette chance, c'est pour ça que je tiens à dire aux gens qu'il y a du soleil au-dessus des nuages quand même. J'ai eu cette chance de me réfugier dans la musique, la poésie, de rencontrer des gens formidables, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que c'est important, cette émission.
Geneviève Avenard, Jean-Pierre Rosenzweig, les adultes doivent s'octroyer un droit d'ingérence.
Oui. C'est la loi qui prévoit qu'on porte assistance aux personnes en danger. Donc effectivement, il y a un devoir. C'est un devoir justement d'ingérence. Dans l'enquête nationale que nous avions faite en 2016, nous avons montré que un certain nombre de un nombre important de personnes ne faisaient aucune démarche, même quand ils avaient des doutes sur l'existence de violences à enfants, par peur de se tromper, donc de faire du tort aux adultes, par peur aussi des représailles. Et puis aussi parce qu'ils méconnaissaient les structures auxquelles ils pouvaient s'adresser. Donc c'est sur ces trois points, je pense qu'il y a des progrès à faire.
Tout à fait, il faut dire qu'il y a un devoir d'ingérence, c'est un problème de responsabilité que de venir en aide à celui qui est en difficulté. Quand un gamin est agressé, les enfants de la classe doivent prévenir soit des parents, soit des enseignants. Quand des enseignants voient des choses, ils doivent en parler, on le disait il y a 5 minutes, aux autorités scolaires, voire même à l'extérieur si jamais ça ne fonctionne pas. Effectivement, tout un chacun doit venir en aide à celui qui est en difficulté.
Question concrète, dans un supermarché.
Sinon, c'est 5 ans d'emprisonnement. Hein.
Question concrète, dans un supermarché, je crois, un parent, un père, une mère en train de douspiller, d'humilier un enfant, de lui donner une tape, qu'est-ce que je fais concrètement?
Vous ne devez pas vous mettre en danger. S'il a un fusil ou une mitraillette, il faut faire attention, mais vous devez intervenir à la hauteur du problème qui est posé. Alors vous allez abaisser la tension dans l'instant, vous ne résolvez pas le problème. Et après, il va falloir voir comment gérer le problème, soit avec les gens cet établissement dont vous parlez, soit si c'est à l'extérieur, en passant un coup de téléphone, ou en allant à la police, etc.
Je l'ai fait, moi, une fois.
Moi, je l'ai vu devant le tribunal.
Et je suis intervenu à une table à côté... Alors évidemment tout de suite, c'est le monsieur de la télé, ouais. Je dis non, attendez, non, là c'est pas pour ça, mais là c'est un petit peu excessif là ce que vous venez de faire là, une gifle, non ben vous savez ce que c'est et tout, ouais mais voilà, je crois que, parce que c'est quoi une gifle, c'est un adulte qui frappe un petit, quel que soit, il a été, les parents sont excédés et tout, mais c'est la force contre la faiblesse, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire le gamin à part pleurer? Ça, c'est quelque chose qui me sidère, quoi. Je peux intervenir.
Ne pas sous-estimer également les violences psychiques, psychologiques, les humiliations.
Oui, les humiliations qui font autant de mal sur la durée que les coups physiques, mais les coups physiques qui quand même ont un aspect et un côté effectivement psychologique, comme vous disiez, la honte, on a parlé de la honte, le sentiment, la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'études scientifiques qui montrent les impacts, les effets des violences commises pendant l'enfance sur toute la vie d'une personne, et notamment sur sa santé psychologique, sur l'enfant, sur ses capacités d'apprentissage, sur son développement, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On sait tout ça. Donc il faut mettre en œuvre et il faut protéger les enfants.
Violence dans la famille, violence aussi dans les institutions. Hein. L'institution scolaire, des centres sociaux, l'Église, à qui on faisait confiance, tous. Il y a beaucoup de lieux de violence physique, psychologique, sexuelle, etc. Et comme le disait Geneviève, le fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui on mesure, grâce à la parole de gens comme vous, qui avaient été entre guillemets victimes, et enlevons même les guillemets, qui avaient été victimes, c'est grâce à la parole des femmes agressées, des enfants violentés sexuellement, j'en passe et des meilleurs, que l'on commence à prendre conscience de l'ampleur. Quand nous disions cela il y a 40 ou 50 ans, comme militants ou comme professionnels, nous n'étions pas aussi crédibles que le sont des gens comme Thierry Beccaro ou d'autres.
Thibaut de Saint-Maurice, quelle est votre ordonnance philosophique ce matin?
Ben d'abord, elle y a un constat. Hein, pour protéger les enfants des violences qu'ils subissent, on le dit depuis le début, le droit ne suffit pas. Alors bien sûr, il faut des règles de droit qui permettent de protéger les enfants, de reconnaître leur intérêt supérieur, de fixer des devoirs aux adultes et de punir ceux qui font du mal. Les règles, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. D'abord parce que le droit ne pourra jamais tout prévoir. La règle, elle est générale, tandis que les situations sont particulières. Et c'est vrai donc pour toute règle de droit, son application va toujours dépendre d'une série d'ajustements ou d'adaptations qui, eux, au final, dépendent des personnes ou des institutions responsables. Et puis ensuite, parce que, comme le montre justement le dernier rapport de la Défenseure des droits, le droit et les règles et les pratiques sont parfois elles-mêmes génératrices de violences. C'est un peu paradoxal, mais il y a une violence institutionnelle. Alors qu'elle est évidemment pas intentionnelle, mais elle résulte d'un effet de système qui a tendance à privilégier l'efficacité de son fonctionnement à l'intérêt de l'enfant.
Alors comment faire si le droit lui-même ne suffit pas?
Il y a peut-être un concept qui peut tout changer, c'est le concept de « care ». Tel qu'il a été pensé et travaillé par deux philosophes nord-américaines, Carol Gilligan et Joan Tronto. En travaillant à partir de la réalité détaillée de situations relationnelles, Gilligan d'abord et puis Tronto ensuite, identifie une autre manière d'être juste. Non pas en impliquant des principes généraux et formels valables pour tout le monde pareil, mais en cherchant plutôt à se rendre attentif,
à prendre soin. C'est ce que signifie care hein, en anglais, se rendre attentif aux besoins particuliers d'une personne dans une situation particulière et se rendre ensuite capable de répondre à ses besoins avant même de savoir si cela est conforme à une règle, à une procédure ou à un dispositif institutionnel. Par exemple, c'est ce que font souvent les personnels soignants à l'hôpital quand ils étendent, vous savez, les horaires de visite pour les parents des enfants hospitalisés pour qu'eux, ils puissent voilà, ne pas venir que l'après-midi entre 14h et 20h, mais aussi être là le matin ou à d'autres horaires. Mais c'est aussi ce que l'école a bien du mal à faire, par exemple, on l'a dit, dans la prise en charge du harcèlement scolaire. Voilà, placer le care ou le soin de l'autre au cœur de l'action de protection, c'est aussi une nouvelle manière de penser l'enfant, de remettre précisément l'enfance au cœur de l'action. Parce que un des effets secondaires quand même un peu paradoxal des droits des enfants, c'est que en le faisant sujet de droit, on le considère aussi un peu vite parfois comme un mini-adulte. Alors certes, un adulte en devenir, mais que son enfance est un peu effacée. Or l'enfance, c'est d'abord une asymétrie fondamentale par rapport au monde des adultes, une asymétrie qui repose sur une vulnérabilité première. Alors le souci du care, le souci du soin, repose sur la reconnaissance de cette vulnérabilité des personnes à qui il doit s'appliquer. Et puis, en se rendant attentif à cette vulnérabilité qu'il réalise dans le détail des situations vécues, une justice concrète qui réduit les effets des violences en les soignant, mais aussi en les prévenant. Alors, comment on fait pour se rendre plus attentif, pour mettre le care au cœur de l'action? Alors, il n'y a pas besoin de loi. Mais d'abord, il y a besoin de formation. Parce que le care, c'est pas une sensibilité naturelle ou une qualité personnelle que certaines personnes auraient et d'autres non. Non, c'est un ensemble de compétences qui se forment au contact de la réalité et qui peuvent s'objectiver et se transmettre. C'est un travail de détail, d'observation des bonnes pratiques, de dialogue, d'expérimentation et d'initiative. C'est donc une volonté plus qu'une règle. Et si c'est une volonté plus qu'une règle, alors nous pouvons tous y participer.
La bienfaisante ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice. Réaction autour de la table, Jean-Pierre Rosenzweig.
Moi, je mettrais 19,5 sur 20, pour ne pas dire 20 sur 20. Non, deux remarques. Le mot important que vous avez prononcé, c'est le mot personne, et non par rapport au mot objet. Et pour rejoindre, parce que de cette idée découle effectivement le droit d'être respecté. Et pour rejoindre ce que vous disiez dans le fait que c'est une responsabilité collective, il faut aussi travailler sur la sémantique. Regardez, aujourd'hui on parle de pédophilie. La pédophilie, c'est l'amour des enfants. Parlons de pédocriminalité. C'est un crime que d'avoir une relation sexuelle avec un enfant. Regardez, on parle d'abus sexuels à enfants, non. Abus sexuel, ça veut dire qu'il y a un usage normal de la sexualité. Il n'y a pas d'usage normal. Et regardez plus avant, la question, t'as combien d'enfants ? Avoir des enfants, alors qu'on devrait dire tu, combien de fois es-tu parent, combien de fois es-tu responsable. Et je terminerai par rapport à ce que vous disiez. Oui, les enfants ont des droits, mais notre rôle d'adulte, et c'est ce que nous disions dès 1989, c'est de les mettre en situation d'exercer leurs droits, c'est notre responsabilité. Donc dire que les enfants ont des droits ne veut pas dire que nous n'ayons pas de responsabilité. C'est le sens de votre propos.
Geneviève Avenard.
Moi, je trouve que la notion de care, elle rejoint tout à fait la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Puisqu'en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de répondre aux besoins des enfants, quels que soient ses besoins, de leur permettre leur meilleur bien-être et leur complet développement. C'est ça que vise la Convention. Hein. C'est qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent épanouis, qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. C'est tout ça, en termes très, très, très simples, c'est tout à fait ça. Et donc, effectivement, c'est comment on les considère. Et cette notion de considération, elle vaut dans les deux sens. Parce que quand on est bien considéré, quand on est considéré comme un être humain à part entière, qu'on a une attention particulière, etc., eh bien, on se sent soi-même mieux dans ces baskets. On est mieux considéré.
Thierry Beccaro, le CARE, c'est l'une de vos missions d'ambassadeur de l'UNICEF.
Oui. Quand on s'est parlé la dernière fois au téléphone, je repensais à la vie des enfants et je me disais, mais quand on est enfant, on a beaucoup de devoirs. Hein, on s'était dit ça au téléphone. On a des devoirs à l'école, on a des devoirs à la maison, mets pas ton coude, mets pas tes doigts dans ton nez, etc. Voilà, alors c'est bien grâce
Et au tribunal, on peut être placé en retenue.
Voilà. Et l'UNICEF a publié un petit livre qui va plaire à Geneviève, enfin à tout le monde, et à Jean-Pierre. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est l'UNICEF qui publie ce livre, et Comment apprendre à dire non. Comment Mimi a appris à dire non. À toi qui lis ce livre, que tu sois grand ou petit, maigre ou gros, noir ou blanc, ton corps est unique. Et il t'appartient. Mais il y a parfois des adultes mal dans leur tête qui peuvent avoir envie de te toucher, de jouer avec ton corps. Ils peuvent avoir des gestes anormaux. Si cela se produit, même si c'est un adulte, tu n'as pas à l'accepter. Comme Mimi Fleur de Cactus, il faut aussi dire non. Non et non. Et si tu te sens mal, si tu te sens en danger, il faut aussi en parler autour de soi. Je trouve ce petit livre, quand je me balade comme ça en France, je vais souvent à la rencontre de mes amis de l'UNICEF. Voilà, c'est un tout petit fascicule.
Gratuit.
Et il est magnifique, vraiment, c'est important.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le réveil sonne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Tu es bête?
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie, vous n'avez pas tout saisi. Ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu pars avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Philippe Catherine interprétait Bonhomme.
Des mousseaux, 1685. Eh bien, des mousseaux, tu m'entends?
Grand bien vous fasse.
Des mousseaux debout, s'il te plaît.
Sur France Inter.
Mais enfin, des mousseaux, tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu ma question?
10h53, comment lutter efficacement contre les violences subies par les enfants, avec Thierry Beccaro, ambassadeur de l'UNICEF, Geneviève Avenard, défenseur des enfants, et Jean-Pierre Rosenzweig, ancien magistrat. Geneviève Avenard, j'aimerais que vous évoquiez les JAD,
oui.
Les jeunes ambassadeurs...
aux droits des enfants, voilà. Ou auprès des enfants.
Ouais. Expliquez-nous un petit peu leur rôle qui est important,
oui.
Et qu'il faudrait développer beaucoup plus largement.
C'est vrai, c'est vrai. Les JAD, c'est un programme qui existe depuis 12 ans à présent. Ce sont des jeunes en service civique qui interviennent principalement dans les établissements scolaires auprès d'enfants. En moyenne, par an, ce sont 60 000 enfants qui sont sensibilisés à leurs droits par ces jeunes ambassadeurs. Et sur ce qui est important de dire, c'est que parmi les questions que les enfants soulèvent à l'occasion de ces actions de sensibilisation, la question des violences et la question du harcèlement en particulier sont des questions qui sont souvent évoquées. Donc ces jeunes ambassadeurs sont formés par le défenseur des droits. Ils ont une formation extrêmement poussée parce que pour intervenir auprès des enfants, il faut le faire avec sérieux. Et ce que nous constatons, c'est que ça libère le fait que viennent dans des classes des personnes extérieures. Et vous le voyez sans doute Thierry aussi,
hein, c'est
aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Ça libère la parole. On a des enfants qui, après la séance, ils vont venir voir les jeunes JAD en leur disant, alors peut-être pas pour moi, mais mon copain ou mon cousin ou ma cousine ont telle ou telle difficulté. Et donc on voit bien combien le fait de créer une ambiance favorable, bienveillante,
parole, de confiance.
Voilà. provoque et peut favoriser la parole, la prise de parole et la libération de la parole.
Alors la prise de parole publique d'une personnalité comme Thierry Beccaro est essentielle pour faire avancer les droits des enfants. Une autre personnalité publique fait avancer aujourd'hui la cause des enfants et des adolescents. C'est la directrice des éditions Julliard, Vanessa Springora, qui publie Le Consentement. Son écriture forte dénonce les violences qu'elle a subies, l'emprise pédocriminelle de l'écrivain Gabriel Matzneff alors qu'elle n'avait que 14 ans. Écoutons-la.
La véritable raison, je pense que c'est aussi le fait d'être devenue moi-même mère et d'avoir autour de moi des adolescents et de comprendre enfin ce qui avait été très difficile pour moi jusque-là, ce que c'était réellement que cet âge très particulier de grande vulnérabilité, de transition entre l'enfance et l'âge adulte. La particularité, chez lui, c'est d'être écrivain et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de cette séduction et cette dépossession de des jeunes filles et des jeunes garçons d'ailleurs pour ce qui est des années 70 puisqu'il a commencé avec plutôt les jeunes garçons. C'est ça voilà qu'il caractérise, qui fait sa singularité, on va dire, c'est en plus d'être écrivain et d'utiliser la littérature pour pouvoir continuer à assouvir ces pulsions qui sont malheureusement pathologiques.
Vanessa Springora dans la matinale de France Culture. Jean-Pierre Rosenzweig, la publication du consentement de Vanessa Springora, ça constitue une avancée dans la promotion du droit des enfants?
Alors, incontestablement, d'ailleurs très concrètement, ça démontre plus que jamais que la loi que nous avons votée au mois d'août 2018 sur les violences sexuelles à enfants est inadaptée. Donc elle contribue à rallumer le débat sur cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle démontre qu'à une certaine époque, certains comme Matzneff, Gabriel Matzneff, ont détourné les droits des enfants à leur profit, parce qu'en réalité, s'ils promouvaient à l'époque les droits des enfants, c'était pour les utiliser. Et puis en plus, il vient nous dire, je rends service à ces enfants en leur permettant de faire vivre leur sexualité. En réalité, il s'est payé sa psychothérapie sur le dos des, si je puis me permettre, sur le dos des enfants dont il a abusé, qu'il a violenté, pardon. Voilà. Donc effectivement, la parole de Vanessa Spangora est quelque chose, mais dans ce domaine-là, j'ai là aussi, même débat sur les droits des femmes, même débat sur le droit des homosexuels, c'est le fait que des gens parlent de ce qu'ils ont vécu et du trauma. Et à l'époque, effectivement, elle a pu être consentante. Mais elle était fondamentalement sous l'emprise de ce personnage. Et Gabriel Matzneff, d'ailleurs, le dit très bien. Si jamais tout ça va au tribunal, l'avocat général n'a qu'à relire les déclarations de Gabriel Matzneff. J'avais une autorité morale, j'avais une autorité intellectuelle, j'avais une aura physique, etc. Tous les éléments de l'emprise que décrit très bien Vanessa dans son livre.
Vanessa Springora, que vous pourrez entendre ce soir dans l'émission de Laura Adler, L'heure bleue. Merci beaucoup, Geneviève Avenard, défenseur des enfants. J'aimerais que vous reveniez régulièrement dans cette émission aussi que Thierry Beccaro, ambassadeur de l'UNICEF. Racontez-nous un petit peu ce que vous voyez, ce que vous permettez de faire avancer, ainsi que...
Ouais,
que
ça sera avec plaisir, en tout cas, Ali.
Jean-Pierre Rosenzweig.
Et qu'on ne parle
également
plus seulement des enfants maltraités,
exactement,
mais des droits des enfants.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre de vos ouvrages. Jean-Pierre Rosenzweig, c'est...
Les droits de l'enfant pour les nuls, c'est-à-dire pour tout le monde.
Thierry Beccaro.
Alors, je suis né à 17 ans, c'est aux éditions Mon Poche, à présent.
Et Geneviève Avenard, on peut lire le fascicule que Thierry Beccaro,
c'est qui s'y frotte, s'y pique.
Alors ça, c'est l'UNICEF.
Et puis j'ai des droits en tant moi, 2200 enfants qui ont été consultés cette année et qui nous ont dit que leurs droits n'étaient pas respectés.
Merci à tous. Demain, on se demande si les animaux pensent avec le mensuel Cerveau et Psycho. À suivre, Nagui et sa bande originale.